Chapitre 17. Caton était riche. Nommé prêtre d'Apollon, il prit une maison à part et emporta avec lui sa portion de la fortune paternelle, montant à 120 talents, environ 660 000 francs de notre monnaie. Plus tard, il hérita de son cousin Germain 100 talents, ce qui fit monter sa fortune à plus de 1200 000 francs. Caton était fort avare. À peine, dit Plutarque, eut-il hérité de toute cette fortune qu'il resserra sa manière de vivre. Et cependant, il dut hériter de son frère encore un demi-million lorsque son frère mourut à Énus. Nous allons arriver tout à l'heure à cette mort et nous verrons ce que dira César de l'avarice de Caton. On connaissait à peine Caton lorsqu'une occasion se présenta pour lui de parler en public. Ce ne fut pas pour accuser ou défendre un riche des prédateurs, un Dolabella ou un Verrès, qu'il prit la parole. Non, Caton l'Ancien, ce bisaïeul pour lequel son arrière-petit-fils avait une si grande vénération, Caton l'Ancien, le Caton du Delenda Carthago, avait dédié la basilique Porcia pendant sa censure. Avons-nous dit que ce surnom de Porcius lui venait de la grande quantité de porc qu'il faisait pâturer, comme le nom de Caton lui venait de son adresse dans les affaires? Si nous ne l'avons pas dit, disons-le. La basilique Porcia avait donc été dédiée par Caton. Mais il se trouva que l'une des colonnes de la basilique gênait les sièges des tribuns qui tenaient là leur séance. Ils voulurent l'ôter ou tout au moins la changer de place. Mais Caton vint et plaida pour l'inamovibilité de la colonne. La colonne resta. On avait remarqué dans Caton une parole serrée, pleine de sens, grave, et cependant ne manquant pas d'une certaine grâce, dont le principal mérite était la concision. Dès ce moment, il fut posé comme orateur. Mais à Rome, nous l'avons dit, de même qu'il n'était pas assez d'être soldat et qu'il fallait encore être orateur, de même ce n'était point assez d'être orateur, il fallait encore être soldat. Caton s'était préparé à ce rude métier. À Rome, Caton ne pouvait suivre l'exemple de son aïeul qui labourait tout nu. Mais au moins s'accoutuma-t-il à supporter les plus grands froids, la tête découverte, et à marcher toujours à pied dans les voyages, quelquefois fort longs, qu'il entreprenait. Cela, au reste, n'engageait point ses amis. Ceux-ci voyageaient à cheval et en litière. Mais de quelques pas qu'ils marchassent, Caton marchait aussi vite qu'eux, s'approchant de celui avec lequel il voulait causer, et appuyant pour tout repos sa main au garrot du cheval. Il avait été d'abord très sobre, ne restant à table que quelques minutes, ne buvant qu'une seule fois après avoir mangé, et se levant aussitôt qu'il avait bu. Plus tard, la chose changea. Le rigide stoïcien se mit à boire et passa quelquefois la nuit entière à table. « Caton ne fait qu'ivrogner, » disait Memmius. Oui, répondait Cicéron. « Mais tu ne dis pas qu'en revanche, il joue au dé depuis le matin jusqu'au soir. » Peut-être Caton était-il ivre lorsque, en plein Sénat, il appela ivrogne César, qui ne buvait presque jamais que de l'eau. « À l'égard du vin, » dit Suétone en parlant de César, « ses ennemis eux-mêmes conviennent qu'il en faisait un usage très modéré. « Vini parsissimum, me inimici quidem negaverunt. » Et Caton lui-même revient sur le mot ivrogne quand il dit « De tous ceux qui ont bouleversé la République, César seul n'était pas ivre. Unum ex omnibus ad evertendam rem publica sobrium accessisse. » Jusqu'à son mariage, Caton resta vierge. Il voulut d'abord épouser Lépida qui était fiancée à Scipion Metellus. On croyait l'affaire rompue entre les deux jeunes gens. Mais les prétentions de Caton ravivèrent l'amour de Métellus et il reprit Lépida au moment où Caton tendait la main vers elle. Cette fois, le stoïque ne fut point maître de lui. Il voulut poursuivre Scipion Métellus en justice. Ses amis lui firent comprendre que tout le monde rirait de lui et qu'il en serait pour ses frais de procès. Il retira sa plainte comme on dirait de nos jours. Mais il prit la plume et fit des iambes contre Scipion. Malheureusement, ses iambes sont perdues. Depuis, il épousa Attilia, qu'il chassa de chez lui à cause de ses déportements. Enfin, il se maria en seconde noce avec Marcia, fille de Philippe. Disons tout de suite comment notre stoïcien, qui, amoureux de Lépidin, faisait des yambes contre Scipion, qui, marié à Attilia, la chassait à cause de ses déportements, disons tout de suite comment il entendait la jalousie. Cette seconde femme de Caton était fort belle et passait pour être sage, ce qui ne l'empêchait point d'avoir un grand nombre d'admirateurs. Au nombre de ses admirateurs était Quintus Hortensius, un des hommes les plus honorés et les plus honorables de Rome. Seulement, Quintus Hortensius avait une singulière manie. Il n'appréciait que la femme qu'il n'avait pas. Or, le divorce étant permis à Rome, il eût bien voulu épouser, après divorce, la fille de Caton mariée à Bibulus, ou la femme de Caton elle-même. Hortensius s'ouvrit d'abord à la femme de Bibulus, laquelle, aimant son mari et ayant deux enfants de lui, trouva les propositions d'Hortensius fort honorables sans doute, mais tout à fait hors de saison. Hortensius, pour que la chose lui parût plus sérieuse, reçut le refus de Porcia de la bouche même de Bibulus. Mais Hortensius ne se tint point pour battu et insista près de Bibulus. Bibulus en appela à son beau-père. Caton intervint. Hortensius alors s'expliqua vis-à-vis de Caton, avec qui il était lié depuis longues années, plus catégoriquement encore qu'il ne l'avait fait vis-à-vis de Bibulus. Hortensius ne cherchait point le scandale et ne tenait pas absolument au bien d'autrui. Ce qu'il voulait, c'était une honnête femme. Par malheur, malgré toutes ses recherches, il n'en avait trouvé que deux à Rome, et elles étaient prises. L'une était, comme nous l'avons dit, Porcia, femme de Bibulus. L'autre, Marcia, femme de Caton. Or, il demandait que Bibulus ou Caton, peu lui importait lequel, poussa le dévouement jusqu'à se séparer de sa femme et la lui donner. À son avis, c'était une chose que Pythias et Damon ne se seraient pas refusés l'un à l'autre et ils prétendaient aimer Caton au moins autant que Pythius. Au reste, Hortensius faisait une proposition qui prouvait sa bonne foi. Il s'engageait à rendre Porcia à Bibulus ou Marcia à Caton aussitôt qu'il en aurait eu deux enfants. Il s'appuyait sur une loi de Numa tombée en désuétude, quoique non abrogée. Cette loi que le lecteur pourra retrouver dans Plutarque, parallèle entre Lycurgue et Numa, portait que le mari qui croirait avoir assez d'enfants pourrait céder sa femme à un autre, soit pour un temps, soit à perpétuité. Caton fit observer à Hortensius que cette cession était pour son compte à lui, Caton, d'autant plus impossible que Marcia était enceinte. Hortensius répondit que, son désir étant un désir honnête et raisonnable, il attendrait que Marcia fût accouchée. Cette persistance toucha Caton, qui demanda à Hortensius la permission toutefois de consulter Philippe, père de Marcia. Philippe était bon homme. « Du moment, dit-il à son gendre, que vous ne voyez pas d'inconvénient à cette cession, je n'en vois pas non plus. Cependant, j'exige que vous signiez au contrat de mariage d'Hortensius et de Marcia. » Caton y consentit. On attendit que Marcia fût accouchée et eût fait ses relevailles, et, en présence de son père et de son mari, qui appliqua sa signature et son cachet au contrat, elle fut mariée à Hortensius. Nous dirons tout à l'heure comment cet arrangement était moins extraordinaire l'an 695 de Rome que 1850 ans après Jésus-Christ. Achevons l'histoire de Marcia et d'Hortensius. Les deux époux vécurent parfaitement heureux. Marcia combla les vœux d'Hortensius en lui donnant deux enfants, et comme Caton ne la redemanda point, Hortensius la garda jusqu'au moment où lui, Hortensius, mourut, et en mourant, lui laissa tout son bien, 20 ou 25 millions peut-être. Alors Caton épousa de nouveau Marcia, comme on peut le voir dans Appius de la guerre civile et dans Lucain, Pharsale, livre 2, vers 328. Seulement, comme la chose arrivait au moment où il partait avec Pompée, ce fut non plus une femme que reprit Caton, mais une mère qu'il rendit à ses filles. L'aventure fit quelque bruit à Rome. On en causa, mais on ne s'en étonna point autrement. Cela tenait aux lois sur le divorce. Disons quelques mots de ces lois, afin qu'une seule chose reste un problème aux yeux de nos lectrices, la passivité de Marcia qui circule d'un mari à l'autre, et encore cette passivité, peut-être l'expliquerons-nous. On le voit, notre prétention est de tout expliquer.